soir, province du Nord-Kivu, près de 30 civils tués et plusieurs blessés en l'espace de 5 jours. C'est le bilan encore provisoire des attaques des rebelles ADF dans plusieurs villages dans le secteur de Rwenzori. Conséquence, un déplacement massif des populations. Pendant ce temps, l'armée dit être à pied d'œuvre pour contenir la situation. Ces nouveaux massacres interviennent au moment où Félix Tshisekedi, actuel président de l'Union africaine, annonce qu'il envisage d'imposer la paix dans toutes les parties de l'Afrique caractérisées par des conflits armés. Quelle analyse faire de ces nouveaux massacres? L'imposition de la paix, comme le propose le président en exercice de l'Union africaine, serait-elle la voie efficace pour ramener la paix dans l'est de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 9 février 2021. Participe au débat Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et cadre de la plateforme Lamouka. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Éric Falouku, député national élu de Butembo, Nord Kivu, il est cadre du parti politique RCD-KML. Il est aussi ancien ambassadeur de la RDC en Angola. Éric Falouku, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Djaribou Mouliouavio, enseignant, chef des travaux à l'Université de Goma au Nord Kivu. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « La guerre des ADF dans le Rwenzori ». Djaribou Mouliouavio, bonsoir.
Bonsoir, madame journaliste.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Bienfait Moukelo. Oui, la paix s'impose et s'arrache. L'ancien système a failli parce qu'il envisageait les négociations avant tout. Mais la vraie solution, c'est l'imposition de la paix en menant la guerre à tous ces groupes armés. Josué Kakule Mutseke de Butembo au Nord Kivu. J'ai toujours pensé que si les tueries se poursuivent à Beni, c'est parce que la question de la sécurisation de ces gens n'a jamais été abordée avec détermination. Juste une volonté et un engagement à en finir avec les tueurs suffisent pour que l'espoir renaisse. Merci de nous suivre à Beni, au Nord Kivu, sous la 92.0 et 92.3. Pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au moins 27 civils tués, c'est le bilan encore provisoire des 4 attaques attribuables aux rebelles ADF dans le secteur de Rwenzori en moins de 5 jours. Ces attaques récurrentes ont occasionné un déplacement massif des populations fuyant les atrocités vers les zones plus sécurisées. André Kitenge nous en dit plus.
La première attaque a eu lieu vendredi dernier dans la soirée au village Ngandu, situé à plus ou moins 3 km de Alungupa. Ici, les ADF ont tué un homme, une dame a été blessée par balle et un autre homme pris en otage. La deuxième attaque a eu lieu tôt le samedi matin dans la localité de Maboulé. Selon le président de la société civile dans le secteur de Rwenzori, 5 corps ont été vus alors que la fouille continuait. Difficile de dresser un bilan définitif, mais d'autres sources parlent d'au moins 12 civils tués. Dans la soirée de dimanche à lundi, une autre attaque, la troisième, a eu lieu au village Alungupa, toujours dans le secteur de Rwenzori. Des personnes identifiées comme rebelles ADF ont fait irruption dans ce village en tuant 5 civils, dont 2 femmes. Un bilan encore provisoire selon la société civile du secteur Rwenzori. Enfin, une nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit d'hier lundi à ce mardi à Kitovirwa, un village du secteur de Rwenzori, près de Mwenda, à 9 km de Mutwanga. Selon la société civile locale, la plupart de ces victimes ont été tuées à l'armée blanche, ce qui porte à 27 le bilan provisoire des personnes tuées en l'espace de 5 jours dans le secteur de Rwenzori. Contacté, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 affirme que les militaires FARDC ont été dépêchés dans la zone. Le lieutenant Anthony Mwalouchai précise que pour le moment, l'armée ne dispose pas encore de bilan définitif.
Merci André Kitenge. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national élu de Goma au Nord Kivu et cadre de la plateforme La Moka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Au moins 27 civils tués. C'est le bilan encore provisoire des 4 attaques en moins de 5 jours dans les secteurs de Rouyn-Zori. Comment vous analysez ces nouveaux massacres alors qu'on a observé une accalmie ces derniers temps dans cette région?
Merci de la question, madame. Il faut dire que cette accalmie n'en est pas une, parce que au-delà du bilan de 27 personnes tuées dans cet espace de 5 jours, mais les massacres sont quotidiens dans beaucoup d'agglomérations, dans beaucoup de villages où les journalistes n'accèdent pas à l'information, les massacres ne sont pas réveillés. Au mois d'octobre de l'année passée, j'ai initié une interpellation adressée au ministre de la Défense nationale et à ses combattants, et dans l'exposé des faits de cette interpellation, j'ai relevé que depuis le 30 octobre 2019, date du lancement de l'opération Délivrance Mayangos, jusqu'au 6 octobre 2020, autour d'une année, le décompte était d'environ 1200 personnes tuées dans ce territoire de Béni. Et si vous ajoutez les nombres tués quotidiennement à novembre, à décembre, à janvier, aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1600, 1800 personnes tuées. Mais tout ça, dans un espace d'environ, lorsque je prends Béni Katindi, c'est 70 km, Béni Eringeti, c'est 50, la superficie de ce triangle n'est pas au-delà de 350 km carrés. On nous a dit lors du lancement des opatives qu'on a déployé 21 000 militaires. Lorsque je divise 21 000 par 350 km carrés, je trouve que nous avons au kilomètre carré 60 militaires bien formés. Comment expliquer qu'avec la présence de 60 militaires à chaque kilomètre carré, on peut quotidiennement tuer des citoyens et personne ne dit mot, c'est-à-dire que ce chiffre était faux. Et étant donné que ce chiffre était faux, que fait le commandant suprême pour évaluer qu'il a été trompé, que rien ne va, que les effectifs qui lui ont été communiqués ne sont pas réels, personne n'est sanctionné, mais bien plus, ces peu de militaires qui se sacrifient, parce qu'il faut l'avouer qu'il y a des militaires qui donnent le maximum d'eux-mêmes, mais ils sont abandonnés à leur triste sort, c'est-à-dire que en fait, depuis un temps, on organise un scénario où ces populations, même ces militaires, sont abandonnés. Pendant ce temps, on ne peut demander des comptes à personne. Depuis octobre 2020, il n'y a aucun conseil des ministres qui se tient. C'est la distraction autour de l'attente de la mise en place des institutions dans le cadre de l'Union sacrée. Pendant ce temps-là, donc, Félix ne se préoccupe qu'à consolider son pouvoir de Kinshasa en abandonnant toute la population dans la partie est de la RDC, et ça, c'est inacceptable.
Mais face à cette situation, vous, en tant que membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que votre commission a fait pour pousser le gouvernement à s'impliquer davantage ou à se pencher davantage sur cette question?
Alors, madame, il faut vous avouer tout de suite qu'il y a de la complaisance dans les chefs et certains responsables. Nous avons déjà reçu le ministre de la Défense à condition à plus de 3 reprises. Et la dernière fois, c'est au mois de juin. Nous lui avons présenté la situation dramatique, de la manière dont, dans cette situation où les populations sont tuées, il y a certains officiers qui s'adonnaient à détourner la prime destinée à motiver les vaillants militaires. Les militaires étaient sa ration, le ministre de la Défense l'a reconnu lui-même, l'a avoué, et que certains officiers ont été rappelés pour être auditionnés à commission de discipline. Curieusement, étant donné que la vie de nos populations est les cadets de ceux qui nous dirigent, nous avons vu tous ces officiers être promis à des postes, à des fonctions très très élevées. Et donc cela a été un objet de découragement, raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait revenir à la charge
pour des sanctions. Vous vous souvenez qu'au mois de mai, le groupe de députés du Nord Kivu avec ceux de Rutshuru avait signé une motion de défiance pour exiger que le ministre de la Défense soit sanctionné. Mais Dieu merci, le bureau Mamounda qui avait bloqué cette motion a été mis à l'écart. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que comme je le disais tantôt, depuis octobre, il y a un théâtre politique qui s'organise à Kinshasa pour qu'il n'y ait aucun conseil de ministre, pour que finalement il n'y ait aucun répondant, parce que l'Assemblée nationale n'est pas habilitée selon la Constitution à interpeller le chef de l'État. Donc il y a un chaos artistique qui s'organise pour que face à cette dégradation de la situation, il n'y ait personne qui a répondu. Mais nous attendons la mise à place, l'installation du nouveau gouvernement. J'espère que beaucoup de députés vont être de plus en plus consciencieux, engagés pour que l'on se montre plus exigeant vis-à-vis de ceux-là qui auront la charge de la gestion, de la défense et de la sécurité.
Jean-Baptiste Kasekwa, vous êtes donc d'accord avec cet auditeur, Josué Kakoulé de Boutemo Nord Kivu, qui pense que si les tueries se poursuivent à Beni, c'est parce que la question de la sécurisation de cette région n'a jamais été abordée avec détermination.
Non. Félix s'est limité au discours. Il a dit qu'il était prêt à mourir pour la paix à l'Est. Il a dit que avant la fête de Noël 2019, il y aura tout. Mais lorsque je compare l'énergie qu'il a mis pour mettre en place le nouveau juge à la Cour constitutionnelle, malgré les blocages dont le FCC est accusé, mais je me dis pourquoi il ne fait pas montre de la même détermination dans la mise en place d'un nouveau commandement capable d'aider à l'éradication de la situation, et même au-delà même de la mise en place d'un nouveau commandement. Pourquoi il ne s'impose pas de manière à accorder la priorité à la prise en charge des militaires? Souvenez-vous, madame, la fois dernière, vous avez suivi des militaires qui sont venus du côté sud du Nord Kivu pour renforcer les fronts à Beni. Leurs enfants, leurs épouses n'ont trouvé d'abri que dans le cas de déplacés à Oïta. Vous pouvez vous imaginer que ce militaire qui se sacrifie pour défendre l'intégrité territoriale, que leurs épouses soient abandonnées et se retrouvent mêlées avec les déplacés de guerre parce que le gouvernement les abandonne à l'intégrité. Donc, la question de la sécurisation des populations terrestres, aussi bien à Beni, à Rutshuru, que bien le Sud Kivu, n'a jamais fait la priorité du pouvoir en place et nos populations sont abandonnées à l'intégrité. Nous devons tous ensemble continuer à sonner la règle, à nous mobiliser pour les amener à changer l'ordre de priorité.
Éric Paloukou, député national élu de Boutembo Nord Kivu, vous êtes cadre du parti politique RCD-KML et aussi ancien ambassadeur de la RDC en Angola. Votre lecture par rapport à ces nouveaux massacres, Éric Paloukou?
Nous sommes vraiment désolés par rapport à ce qui se passe chez nous au Nord Kivu. La situation est vraiment chaotique, puisque même nous manquons de mots, comment présenter nos condoléances à toute la population, puisque c'est chaque jour que nous devons le faire, mais nous manquons maintenant les mots pour le faire. La situation qui se passe chez nous est vraiment déplorable, et aujourd'hui, nous ne savons plus quelle stratégie prendre, puisque nous avons fait les contacts que nous devons faire, attaquer les députés, nous avons vu tout le monde, de la présidence de la République jusqu'au cadre inférieur, de l'armée, au chef d'état-major de l'armée, jusqu'au moins gradé de l'armée, pour que la paix revienne totalement à Beni et dans d'autres territoires du Congo. Mais la situation qui se passe chez nous, qui nous préoccupe, elle est vraiment déplorable, puisque nous avons donné toutes les stratégies, puisque en fait la population connaît qui les tue. Et nous avons donné des informations à qui de droit pour que justice soit faite, et pour que la chose puisse se terminer. Nous avons été à Beni, envoyé par le président de la République en 2019. Nous avons demandé à ce que la population puisse accompagner l'armée. La population a fait ce qu'il devait faire. Mais à notre grande surprise, nous demandons comment la situation ne s'est pas terminée, puisque en fait, la population a fait ce que le ministère le demandait, à le montant des pistes de solutions, puisqu'il savait où se trouvaient les cachettes de tous ses ennemis de la paix. Mais nous sommes rendus compte qu'à certains moments, il y avait une défaillance au niveau de notre armée, je peux le dire, bien qu'il y avait nos vaillants soldats qui ont versé leur sang pour la cause, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une certaine complicité, une certaine infiltration au sein de l'armée. Et ça, nous avons déjà signalé ça au niveau de l'état-major de l'armée, pour demander d'ailleurs à ceux qui se levaient certains officiers qui étaient impliqués, certaines choses qui étaient soupçonnées par la population.
Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ces militaires, ces officiers impliqués dans ces massacres ont été relevés?
Non, mais à un certain moment, il y avait certains déplacements, on les a déplacés d'un coin à l'autre, mais ils n'ont jamais été relevés totalement, puisqu'il y a certaines personnes qui avaient été citées, mais qui se trouvent encore sur les lieux de bataille. Donc nous voulons à ce qu'on puisse tenir compte de ce qu'on avait dit, que cela puisse se faire immédiatement, parce que jusqu'aujourd'hui, les soupçons sont au niveau de certains cas de l'armée. Je ne cite pas les soldats qui sont sur terre, puisque chaque jour, ils sont en train de se sacrifier. Mais c'est les commandements qui posent problème. Nous demandons à ce que vraiment le président de la République puisse insister là-dessus pour demander au chef d'état-major de voir clair sur ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas essuyer des défaites chaque jour comme ça et dire qu'on est en train de payer de l'argent pour que les choses puissent s'arrêter. On a déployé l'armée, des milliers de soldats. On se demande si c'est la vérité ou pas, puisque c'est pas possible qu'on soit toujours à des routes, c'est honteux. Qu'une armée nationale soit vraiment mise à déroute par une milice. Et aujourd'hui, on se demande à quoi servent les services de renseignement militaire et civil qui sont sur les lieux, qui ne parviennent pas à identifier exactement d'où viennent ces forces-là. Pour chaque jour, on parle de présumés EDF, de présumés EDF. C'est pas normal qu'un pays puisse avoir des services comme ça. Si ces services ne sont pas capables de le faire, autant les remplacer par l'autre, il ne manque pas de cadres au pays qui peuvent faire le travail.
Éric Palou, où est-ce qu'on peut parler de complaisance dans la manière de traiter cette question de Béni?
Bon, je ne sais pas dire ça par complaisance, puisque nous avons quand même vu la volonté du chef de l'État qui voulait que les choses puissent se terminer, puisque lui-même, déjà, au début de son mandat, il avait vraiment bien dit qu'il était disponible, et s'il faut perdre même sa vie pour que la paix revienne à Béni, il est prêt à perdre sa vie par rapport à ça. Nous n'avons jamais vu de complaisance au sein de la direction du pays, puisque le président lui-même a déjà dit qu'il faudra que ça se termine. La complaisance peut se faire être au niveau de l'armée, où il y a des infiltrés militaires qui ne parviennent pas à ce que les choses puissent se terminer normalement. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les chefs de l'État veulent encore s'installer au nord Kivu pour voir de près ce qui se passe. Il y a des informations que la population possède, qui fait quoi sur le terrain. Par exemple, les choses qui sont en train de se faire à Lungu actuellement. Mais on ne peut pas comprendre, puisque chaque fois que la population va dire aux militaires qu'il y a des infiltrés qui arrivent, ils ne viennent pas, ils ne viennent toujours à l'état, ils viennent faire le constat, mais ceux qui sont déjà morts, et pourtant, ils sont toujours avisés quelques heures avant le massacre. Chaque fois qu'il y a massacre, les militaires sont toujours au courant de ça, puisque la population les informe toujours, que ce soit à Ouitcha, que ce soit à Eringeti et partout, ils sont toujours avisés quelques heures avant, et nous avons des preuves que chaque fois qu'il y a massacre, ils sont toujours avisés. Alors la complaisance, je vais le dire, c'est au niveau des militaires, mais ça peut venir de traitement des militaires, parce que les militaires ne sont pas bien traités. Leurs soldats ont toujours été détournés. Mais chaque fois qu'on pointe quelqu'un qui a détourné, bon, on peut le rappeler à Kinshasa, on le voit toujours en train de circuler librement, il n'est pas puni, donc c'est ce problème qui se pose. Les militaires qui sont sur le terrain, ils sont en train de faire du bon travail, mais le problème c'est qu'ils sont maltraités, et c'est vrai que le manque d'efficacité sur le terrain, quand on voit que même leurs familles ici sont presque abandonnées, les enfants et les femmes sont devenus des manières ici à Kinshasa.
Éric Paloukou, ces cadres de l'armée, ces officiers qui seraient impliqués, ils le feraient pour quelle finalité selon vous?
Mais justement, nous ne savons pas comprendre cela. Au fait, c'est un problème qui nous dépasse, puisqu'on ne peut pas se demander comment quelqu'un peut jurer qu'il va servir la nation tout en tuant les enfants de cette nation-là. Les militaires, ils ont juré qu'ils sont là pour le peuple congolais, mais nous nous demandons pourquoi ils sont impliqués dans les massacres de nos populations. Puisque la plupart des fois qu'on a arrêté les gens, je ne dis pas que tous les militaires sont là-dedans. La plupart qu'on a arrêté des gens, il y a toujours des gens qui ont été cités. Et c'est à cause de ça que même la complicité va jusqu'à la justice militaire, puisque chaque fois, on va aller là vers les jugements, les prisons sont cassées, et les gens qui ont vu les prisons cassées n'ont jamais été punis. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est quand il y aura un jugement, la veille la prison est cassée, où se trouvent les EDF, ceux qui pouvaient témoigner par rapport aux complicités des uns et des autres.
Djaribou Mouliwavio, vous êtes enseignant, chef des travaux à l'université de Goma. Au Nord Kivu, vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « La guerre des ADF dans le Rwenzori ». Votre analyse par rapport à ces nouveaux massacres?
Bon, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la population de Bénin, mais aussi saluer les co-débatteurs, les honorables Café quoi, et Eric, que je connais très bien. Et bon, je pense qu'il n'y a jamais eu d'accalmie dans la région de Béni, que moi j'appelle région de Rwenzori. Ça, c'est un mode opératoire des ADF, c'est un mode habituel qui utilise les ADF. Ils prennent le temps de se réorganiser, de soigner les blessés et reprendre les attaques à tout moment. Donc, c'est une stratégie de distraction pour endormir les FARDC, la MONUSCO, et même les politiciens qui croient que à un certain moment, il y a eu accalmie, la population était en train de rentrer. Nous avons vu même des politiciens appeler la population à rejoindre certains villages. Je crois que c'est une stratégie des ADF. Et après, on a attaqué les gens. Actuellement, les attaques sont concentrées dans la région du Rwenzori, vers le secteur du Rwenzori, donc les massifs frontaliers entre l'Ouganda et la RDC. Bon, il semble abandonner les combats dans les secteurs centres, Mayango, Seo, Icha, Mbaru et Kosor. Et là, c'est aussi une stratégie. Ils obligent les FARDC d'opérer sur un terrain qu'ils maîtrisent depuis longtemps. Les ADF maîtrisent les Rwenzori depuis des années, depuis leur création. Et donc, ils obligent maintenant les FARDC à les poursuivre vers la région, les massifs du Rwenzori. Et la conséquence de ce mode opératoire, la conséquence de ce mode opératoire des ADF, c'est que les FARDC risquent de dégarnir leur position habituelle, donc d'Abenimbao et vers la rivière Senouliki, pour aller mener des opérations dans les Rwenzori. Et ça, pour les ADF, ça sera, je ne dirais pas réussite, mais ça sera la réussite de leur stratégie, puisque vous savez qu'ils sont. Ils sont éparpillés dans la zone, ils sont éparpillés à Goupistil, ils sont vers Ngeti, ils sont vers Irumu, et ils sont sur la route Mbaou-Kamango, et si on dégarnit la partie centre pour les poursuivre dans les Rwenzori, ils vont se réorganiser dans la région centre. Donc voilà la conséquence des opérations qui sont en train de mener. Je crois que c'est une stratégie pour désorganiser les forces loyales, puisqu'on sera obligé maintenant de les poursuivre dans les Rwenzori et de dégager la région centre.
Djaribou Mouliwavio, vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « La guerre des ADF dans le Rwenzori ». Qu'est-ce que ces ADF cherchent finalement dans cette partie de la RDC? C'est quoi leur... ils poursuivent quel objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent au fait?
Actuellement, l'objectif, c'est de sécuriser leur base, puisque ils ont été assignés par les FARDC. Vous savez que vers Mayango, c'est tout leur temps, vers Mwarika, vers Madina, qui était leur quartier général, ils ne sont plus là-bas. Et donc, ils sont entrés eux-mêmes de s'anticiper, de se sécuriser. Les ADEC cherchent quoi? Les ADEC cherchent un espace où ils peuvent se mouvoir librement. C'est à la République, c'est au FARDC, c'est à nos dirigeants de combattre cette résilience, puisqu'on ne peut pas laisser un territoire être géré par dehors la loi comme les ADF. Et aujourd'hui, ils sont dans les cacao, et c'est donc, il est tout à fait normal que vous parlez par assime pour continuer à exploiter ces ressources.
Certains cadres militaires ou certains officiers militaires sont accusés d'être en complicité avec ces rebelles EDF. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pointent du doigt ces officiers militaires qui seraient derrière aussi tous ces massacres?
Bon, moi, j'ai de la prendre aussi aux députés qui viennent de le dire. Je crois qu'ils sont mieux situés d'engager ce débat sur la complicité de l'armée.
Mais bon, il y a plusieurs rapports. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ces débats sur la complicité de l'armée. Lorsque le chef de l'État, le nouveau chef de l'État, Félix, est arrivé au pouvoir, nous avons passé avec la population que c'était un nouvel air par rapport à la gestion de cette question des ADES. Et lui-même a promis, puisqu'il était informé justement qu'il y a des brebis galaises au sein de l'armée, il a dit qu'il venait de changer les commandements, il venait de changer les troupes. Alors, il y a un député qui dit qu'on a tombé le chef de l'État, bon, je les lui concède, mais moi je pense que le président Tshisekedi doit se comporter à conséquence. S'il développe les mêmes discours que les chefs de l'État, son prédécesseur, je pense que la question sera difficile à être résolue. Il faut écouter la population, il faut écouter tout le monde, mais il faut agir en connexion avec tous les acteurs. Les problèmes de la région de Beni, c'est qu'on accuse par exemple la population, mais on n'a jamais impliqué la population dans la question, dans la recherche de la solution. On accuse les militaires, mais on ne les prend pas correctement à charge. Un militaire, par exemple, est touché 150 000 francs. Il est au front, il est en train d'attendre la mort, il se prépare à la mort, et vous lui donnez 160 000 francs. Mais entre ça, sur les théâtres d'opération, il y a les cacao, il peut utiliser des jeunes, cueillir les cacao et avoir 500 ou 1000 dollars. Mais le choix est clair. Je crois que nous sommes tenus tous responsables. Il ne suffit pas d'accuser. Il faut bien traiter les militaires pour que cette rumeur qui circule autour de leur complicité avec les ADES soit annihilée.
On regarde encore dans cette émission Djaribou Mouliwadio. Les auditeurs sont très nombreux à appeler. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani. Pour vous, Jean-Baptiste Kiasse, quoi?
Jordan Saïdi Atibou, militant de la Lucha depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées. Le nouveau massacre dans plusieurs villages du secteur de Rwenzori est une preuve éloquente que notre armée est infiltrée car nous ne pouvons pas comprendre qu'on tire à Rwenzori, à Beni, à Djougou, sous l'œil impuissant des autorités militaires. Et sans que ces dernières prennent des dispositions idoines pouvant permettre à pacifier les territoires congolais transformés en un abattoir humain. L'imposition de la paix doit commencer par la justice et non par des promesses que l'OTAN attendit. Nous ne parvenons pas à comprendre que les commanditaires des groupes rebelles finissent par être promis dans notre armée et certains vivent librement dans de très bonnes conditions au-delà de leurs crimes commis. L'impunité renforce, encourage les auteurs et co-auteurs du carnage dans notre pays. On dirait que nos lois pénales sont à désuétude.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, ce nouveau massacre intervient au moment où Félix Tshisekedi, actuel président de l'Union africaine, annonce qu'il envisage d'imposer la paix dans toutes les parties de l'Afrique caractérisées par les conflits armés. Vous pensez que l'imposition de la paix est la voie efficace pour ramener la paix dans l'est de la RDC?
Mais madame, ça fait rire. Je crois qu'à un certain niveau de responsabilité, nous devons éviter de faire de la théâtralisation politique. Donc, Félix veut prétendre qu'il va imposer la paix à Somalie, il va imposer la paix au Soudan, à Centrafrique, il va imposer la paix dans toutes ces régions-là, alors que les populations de Beni sont en train de pleurer, les populations d'Ituri. Je crois que l'exemple, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il devait donner d'abord l'exemple en interne. Avec quel outil va-t-il contribuer à l'imposition de la paix? Quelles sont les capacités militaires qu'il a données au FARDC pour que demain la République centrafricaine à crise, le Burundi à crise et d'autres pays puissent recourir aux troupes congolaises afin de jouir de la paix? Mais je reviens à ce que dit
l'auditeur de Kisangani,
le militant de la lutte à Kisangani. Je suis de son avis que l'impunité est l'une des causes de la paix de distance de ces tueries, de ces massacres à Beni.
Pouvez-vous vous imaginer, madame, que depuis l'évasion planifiée et organisée de la prison de Béni, jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune enquête qui a été menée. Personne n'en parle, la présidence n'a rien dit, le ministère de la justice n'a rien dit, aucun procureur. Non seulement l'évasion organisée, il y a eu des informations qui ont circulé autour du système de détournement des fonds alloués à la police, alloués à l'armée. Moi-même, j'ai été sur le terrain, j'ai découvert que de Kanyabayonga à Eringeti, les services de renseignement ne recevaient pas moins que 3 000 $ le mois, alors que des montants colossaux étaient détournés. On peut vous dire qu'on a affecté 200 000 et à Kinshasa, on a retourné 192 000 et c'est seulement 2 000 $ qui sont laissés sur le terrain. Mais qui sanctionne les soldes de militaires depuis le mois de novembre 2019 jusqu'au milieu de l'année 2020? Mais les commandants suprêmes, pourquoi s'interdit-il de sanctionner les auteurs de ces détournements-là? Vous pouvez faire le tour des prisons aujourd'hui, madame. La prison de Angenga, la prison de Goma, la prison de Beni. Il n'y a aucun adepte authentique qui est arrêté. On se contente d'arrêter les militaires de la route, et là on est sévère. On va proposer 10 ans de prison, on arrête des motards, on arrête des commerçants. Mais les vrais auteurs, il y a un système d'impunité organisé. Et ça, c'est dans le chef du haut commandement que nous devons exiger que ce système d'impunité puisse être abandonné.
Éric Paloukou, on a une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
C'est Gilbert Bollywood de Bukavu aussi de Kivu. Oui, l'imposition peut être l'une des solutions pour la paix, mais pas la voie efficace pour amener la paix dans l'est de la RDC. Seulement, l'on devrait de rassurer avec l'arrivée de ce nouveau régime les vraies revendications de ces groupes armés pour éviter de s'attaquer aux conséquences, oubliant la vraie cause, l'injustice sociale, la non-distribution au peuple congolais des ressources du pays, le chômage des jeunes manipulés dans ces groupes armés serait à la base de tous ces forfaits. On peut lui imposer la paix, mais tant que les jeunes vivraient dans ces mêmes calvaires, les mêmes bourreaux les utiliseraient pour les mêmes crimes.
Éric Paloukou, réaction.
Merci beaucoup, madame, pour m'accorder la parole. Mais je remercie notre frère qui a parlé de Bukavu. Effectivement, la situation de notre pays, même si on doit parler d'imposer la paix en Afrique, partout tel que le président l'a dit au cours de sa conférence à Addis Abeba, il est possible que la paix soit imposée, mais il y a beaucoup de préalables. Ça ne s'impose pas comme ça théoriquement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord faire, par exemple, au niveau du Congo, puisqu'il n'arrivera pas à imposer la paix partout ailleurs si ça n'a pas commencé en RDC. Vous rappelez, à l'époque, il y avait des troubles en Ituri, on avait imposé la force Artemis pour essayer d'arranger la situation. Il y avait la calmie. Et à partir du moment où, en RDC, il est vraiment visible que la FARDC ne soit pas capable d'imposer la paix, il faudra alors qu'on arrive à trouver d'autres partenaires qui peuvent nous aider au niveau de la SADC ou bien au niveau de l'Union africaine pour voir comment la paix puisse être vraiment accordée au Congo. On ne peut pas imposer la paix s'il n'y a pas une autre coopération militaire chez nous, puisque pour le moment, il est vraiment visible. Parce que pendant toutes ces années, depuis qu'il y a eu massacre à Beni, depuis 7 ans, et qu'on ne parvienne pas à imposer la paix dans cette petite zone qui est connue, les limites sont connues, et on n'arrive pas à imposer la paix, comment est-ce qu'on va imposer la paix dans tous les pays africains? Donc nous demandons à ce que le président, maintenant aujourd'hui qu'il a le commandement de toute l'Afrique, il faut qu'il le voit avec ses compères, ses confrères, pour voir comment il peut faire pour qu'on arrive à trouver la paix en RDC, puisque les gens ont tellement souffert. Et que si peut-être commencer par le Congo et aller ailleurs, ça peut aller, puisqu'il ne faut pas imposer la paix dans tous les pays à la fois. Il faut commencer pays par pays, et il doit commencer par la RDC et voir comment ça peut se faire. Nous avons vu dans toutes les nations, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils ont trouvé des solutions avec d'autres pays. Avec la coopération bilatérale ou multilatérale, on peut arriver à trouver une solution à notre pays. Puisque aujourd'hui, la population qui souffre jour par jour, une journée c'est comme une année. Donc, même si on peut promettre que la paix sera imposée, mais tant qu'il n'y aura pas quelque chose de palpable, la population ne sera pas d'accord. Donc il faudra vraiment que le président s'imbrique le plus tôt possible à trouver des partenaires qui peuvent nous aider à arranger cette situation. Parce que tel que vient de lire notre ami de Bukavu, les groupes armés aussi pullulent dans les pays à cause de cette incapacité de notre pays à prendre les choses à main. Donc nous demandons à ce que vraiment le président puisse s'imbriquer et totalement pour que la paix revienne le plus tôt possible, parce que les gens ont beaucoup souffert, pas seulement à Beni, mais aussi à Ituri, au Sud Kivu, c'est tout le pays, c'est tout l'est du pays qui est vraiment embrasé, même à partir de Tanganyika, partout là-bas nous avons des problèmes.
Merci, Eric Paluku. On va vous redonner la parole pour conclure. Djaribou, on a aussi une réaction pour vous.
Jean-Claude Baderego Ibane, depuis la province du Bazouélé, ville de... À mon avis, l'effet pour le président de la République de proposer l'imposition de la paix ne ramène pas la paix dans l'est du pays. Car, depuis son accession au pouvoir, le président avait promis l'installation de l'état-major à l'est du pays pour lutter contre les rebelles qui massacrent la population locale. En effet, le président doit avoir la volonté de réaliser ses promesses et de mettre en place des mécanismes nécessaires pour sauver la population qui croit toujours en lui, afin de déstabiliser les rebelles bien connus qui le massacrent.
Djaribou Mouliwadio, imposer la paix, est-ce la voie efficace pour amener la paix dans l'est de la RDC?
Bon, merci pour la parole et la préoccupation de notre frère. Hein. Je m'appuie sur la citation d'un notaire nigérien. Wole Soyenga disait que les tigres ne proclament pas sa subitude, mais sautent sur sa proie. Donc ce qu'on attend du chef de l'État, c'est qu'aujourd'hui ou jamais, il doit profiter de la position qu'il a, la position actuelle de la diplomatie congolaise. Le fait que le chef de l'État soit à la tête de l'IA devait permettre au chef de l'État de couper toutes les sources de ravitaillement des ADF, puisque c'est à partir de l'étranger, bien sûr, notamment les pays voisins, Ouganda et d'autres de l'Est, que les ADF se ravitaillent, mais aussi qu'ils recrutent dans tous les pays de l'Est. Je crois qu'aujourd'hui même le matin, les FARDC ont mis la main sur un centre africain qui est membre des ADF. Je crois que c'est dans la région de Mbao, sur la route Mbao-Kamango. Donc le chef de l'État devait profiter de sa position au niveau de la diplomatie pour sensibiliser ou pousser les pays voisins à ne pas soutenir la violence armée des ADF dans la région. Et donc si on casse cette voie, cette chaîne de recrutement, je crois que le président aura eu son pari, aura réussi son pari. Mais aussi, il faut que le chef de l'État obtienne, comme vient de le dire Eric, l'honorable Eric, le chef de l'État, par rapport à sa position, devait obtenir des opérations conjointes. Puisque, qu'on se le dise, les FARDC ont montré leurs limites, mais on ne peut pas se moquer des FARDC par rapport à la région sur laquelle le théâtre d'opération est organisé. Je crois qu'il faut renforcer les troupes et on a besoin plus de troupes spécialisées. Et comme les ADF sont en train de se diriger vers les massifs de Rwenzori, ce qu'il ne faut pas leur permettre, il faut des troupes spécialisées dans les massifs de Rwenzori. Je suis très heureux quand même que le gouvernement congolais ou bien la République ait réussi la sensibilisation des États-Unis d'Amérique pour que Africom s'engage dans la recherche de la solution de la paix par rapport aux ADF. C'est bon, mais il faut aller au bout, puisque permettre aux ADF de réoccuper ces anciens bastions, notamment les massifs de Rwenzori, ça va être très compliqué. mais aussi il ne faut pas plus permettre que les États africains, notamment à l'est de la République, jouent au jeu cache-cache. Puisque l'Ouganda, il est prouvé tous les jours, c'est chaque jour qu'on rapporte sur l'entrée des troupes, l'inscription des troupes étrangères. Où est-ce que ces troupes, quels que soient les rapports des ADF, comment ces rapports proviennent de l'Ouganda, ça que l'Ouganda ne les sache. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de cache-cache et sur lesquels le chef de l'État pourra travailler. Je crois qu'il faut accorder la chance au chef de l'État par rapport à la ligne qu'il est en train de prendre. Il faut lui accorder la chance et on pourra évaluer dans quelques mois.
Merci, Djaribou Mouliwadio. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, nous sommes à la fin de notre émission. Il faut conclure. Quelle serait la solution pour vous pour qu'on trouve enfin une solution à ce problème de Béni?
Je propose une solution à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la mobilisation populaire. Sans une pression populaire, le pouvoir de Kinshasa va continuer à se laisser distraire par la question de la mise en place des lignes sucrées et autres, mais de la même manière que c'est la mobilisation de la population en 2004 qui a fait que Kinshasa et la communauté internationale ordonne à Kouna de quitter Bukavu.
Deuxième
en 2012,
proposition.
C'est la mobilisation populaire qui a permis à ce que le M23 quitte la ville de Goma. Aujourd'hui, si la population, le mouvement citoyen, la société civile et tous les autres ne s'élèvent pas, nous risquons d'être surpris un matin que la ville de Beni, la ville de Boutembo soit prise entre les mains de ces gens-là et que ça ne pourra rien faire. Le deuxième niveau,
allez-y un peu rapidement, on a plus beaucoup de temps.
Obligé à accorder la priorité des finances à l'armée. Comment on peut prévoir distribuer des gifles DXL aux députés simplement parce qu'ils ont signé telle ou telle motion, mais les commandants des opérations à Beni de tous les secteurs manquent des moyens de mobilité pour intervenir. Comment on peut allouer des fonds au cabinet, à tous les conseillers du chef de l'État, et les opérations sont abandonnées. À troisième niveau, il faut apprendre à punir tous ces gens-là qui détournent l'argent destiné aux opérations, dans le cadre des opérations retour, tous ceux-là qui imposent des fictifs imaginaires. Et après, il doit lui-même cesser de jouer au cache-cache, en cachant l'intervention des troupes rwandaises et des troupes ougandaises sur notre territoire.
Merci Jean-Baptiste Kasekwa, Eric Paluku, soyez bref, votre conclusion. Qu'est-ce que vous proposez?
Moi je propose, madame, que le président de la République s'implique pour la paix, mais il faudra qu'il puisse interpeller son état-major de l'armée pour qu'il puisse relever tous ceux qui ne sont pas capables de gérer efficacement l'armée et que voir comment on peut trouver les moyens pour essayer de donner un peu de réconfort à ceux qui sont en train de se battre sur terrain et qu'également aussi qu'il y ait moins d'hypocrisie au sein de renseignements militaires et civils, puisque ce sont ces gens-là qui ne veulent pas donner la vraie version de ce qui se passe sur terrain. Et parfois, le président est dérouté par rapport à tous ces éléments qu'il donne. Donc, nous demandons à ce que les services d'enseignement, au niveau de même au niveau de la MONUSCO, parce qu'il y a beaucoup de documents là-bas, qu'ils mettent tout cela à la disposition du président de la République. Comme ça, il peut avoir la vision claire sur ce qui se passe. Et comme ça, les gens qui sont impliqués soient punis. Donc, même au niveau des auditorats militaires, qu'on essaie de voir comment terminer toute cette complaisance qui s'est faite dans les jugements de ceux qui sont à la base des ordres. Ok, merci.
Merci Eric Paluku, on n'a plus beaucoup de temps. Djaribou Mouliwavio, votre conclusion en 30 secondes, s'il vous plaît.
Je crois que tout vient d'être dit. Il faut trianguler la solution par rapport à la question des ADF. Et il ne faut pas aussi oublier non seulement la justice, mais aussi le processus DDR qui implique la communauté, les DDRC qui implique la communauté. On ne peut pas accuser les gens d'être complices des ADEF et ne pas les utiliser à sensibiliser ceux qui sont dans la boue. Donc il faut appuyer sur cet angle-là.
Merci Djaribou Mouliwavio, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Jean-Claude Ciela qui était à la mise en œuvre, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.